Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Jacques Thomas, bonjour.
Bonjour, madame.
Voilà, troisième semaine que nous nous retrouvons pour parler de l'affaire Kalash. Et vous avez écrit sur cette affaire un ouvrage intitulé 1762, l'affaire Kalash, religion et intolérance au siècle des Lumières, paru aux éditions Midi Pyrénéennes. Une maison d'édition très intéressante qui aborde souvent des thèmes justement de Toulouse ou de la région particulièrement. Alors, on en est resté à la mort de Marc-Antoine, je ne me trompe pas de prénom,
oui,
c'est ça ?
Tout à fait, Marc-Antoine Kalash.
Voilà. Et la question, d'emblée, on va dire qu'il a été assassiné.
Ou pas ? Je dirais que tout le débat est autour de sa mort et des causes de sa mort. Parce que les Kalash ont raconté dans les 48 premières heures après sa mort, deux versions différentes des faits. Dans la première version qu'ils ont racontée aux Capitouls qui ont commencé l'enquête dès le soir de la mort, ils ont raconté qu'ils ont trouvé Marc-Antoine dans la boutique par terre mort, ce qui suggérait qu'il avait été tué par quelqu'un, parce qu'il n'y avait pas de signe de suicide. Après, je dirais, quelques heures de réflexion et peut-être la présence de l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure, qui est allé voir sur place la configuration des lieux et qui ne comprenait pas et qui leur dit « Bon, mais il faut que vous racontiez ce qui vraiment s'est passé. » Et c'est là où il raconte que quand Pierre et son ami Gobert Lavaïs descendent les marches après le repas, ils ont mangé un repas en famille, tous ensemble dans la même pièce, en présence également de la servante. Et donc, quand ils descendent, ils trouvent Marc-Antoine pendu sur une sorte de bâton, parce que dans les rouleaux de textile étaient enroulés autour d'un bâton en bois, donc qui était assez costaud, et il avait suspendu entre deux portes qui faisaient rentrer dans la boutique. Et
tous les signes d'un suicide.
Donc, il est pendu, tout habillé, avec sa veste pliée. Il n'est pas du tout défait. Et il est pendu, écrit. Le père descend de l'appartement, le trouve et le descend lui-même et le fait poser par terre. Et donc, et là, on constate qu'effectivement, il est décédé. Même Madame Kalash, malgré tout, est descendue. Elle essaie de lui mettre du parfum sous le nez ou sous les lèvres pour peut-être provoquer quelque chose. Mais bon, il est décédé. Et c'est là, dans la variation de ces deux récits,
que la suspicion
naît et qu'on trouve peut-être la faille. Et après, il y a la question de la motivation. Pourquoi on l'aurait tué? Quelle pourrait être une raison pour un crime qui semble être familial, parce que nous sommes dans une sorte d'Agatha Christie, dans une maison fermée à clé, avec 5 ou 6, 7 personnes présentes, et donc qui...
Présentes et qui étaient ensemble au moment où il est mort, lui.
C'est ce qu'ils disent, ils sont ensemble, et il n'y avait pas beaucoup de place où ils pouvaient disparaître, etc.
Mais vous avez raison, c'est un vrai roman d'Agatha Christie. Là.
Donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où interviennent l'hypothèse que les Capitouls et ensuite toutes les autorités judiciaires de Toulouse vont utiliser jusqu'au bout, c'est que Marc-Antoine voulait devenir catholique, peut-être pour devenir avocat comme il le souhaitait. Et cette motivation, ses parents disent non. Et il décide de le tuer, l'assassiner. Alors, évidemment, il faut imaginer que le père, la mère, le frère, un ami arrivé un peu par là, et la fervente catholique sont tous dans le coup. Et ça, c'était un petit peu plus difficile. Alors, comme j'ai dit, comme nous avons dit tout à l'heure, la question de la scène du crime. Aujourd'hui, nous sommes abreuvés de séries télévisées qui montrent les scènes de crime et on voit des personnes arriver avec leur gants en plastique, avec leur combinaison spatiale, etc. Là, ce n'est pas du tout comme ça. On est rentré et sorti de la maison Callas comme du Moulin. Il y avait les voisins, il y a des gens qui viennent, il y avait les capitaux qui sont passés.
Toute la famille qui loue, c'est pas
là. La famille qui sont là. Il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de scène de crime. On a trouvé un escabeau, une chaise un peu par là, renversé peut-être. On a trouvé le bâton sur lequel il a pu être pendu. On a trouvé la corde qui avait été coupée par la famille, disent-ils. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autopsie qui est faite à l'hôtel de ville, n'est pas faite de façon à déterminer, par exemple, si Marc-Antoine est étouffé, s'il a été étranglé, s'il s'est cassé le cou en tombant de sa chaise, etc. Donc, on n'a pas une vraie autopsie qui permettrait de savoir de quoi il est mort.
Oui. Alors, est-ce que on pense maintenant que probablement il s'est suicidé et l'explication, ce que vous avez dit, le fait qu'il ne puisse pas exercer le métier auquel il aspire, peut-être qu'il voit son avenir bouché, pas de solution, peut-être qu'il est dépressif, sait-on jamais. Son suicide serait plausible, mais la famille, peut-être, ne veut pas accepter l'idée d'un suicide.
Le suicide, sous l'Ancien Régime, est un crime.
Ah.
Et donc, si quelqu'un se suicide de façon notoire, on peut faire procès à sa mémoire et à son cadavre. Et c'est quelque chose d'assez horrible parce qu'on fait le procès. Hein. On désigne une sorte de curateur qui va le défendre parce qu'évidemment, il ne peut pas se défendre tout seul. Et après, on va présenter les preuves. Et s'il est condamné, sa mémoire est bannie à jamais. Et le corps peut être...
C'est la honte sur la famille.
C'est la honte, mais surtout, on met le corps du suicidé sur une clé, c'est-à-dire comme une sorte de morceau de bois que l'on traîne dans les rues de Toulouse. Pas que Toulouse, dans tout le royaume. Et ensuite, on jetait le cadavre au chien. Donc, il n'a pas droit à un enterrement chrétien en bonne et due forme. N'en parlons pas, bien sûr, de la honte de la famille. Dans le cas de Marc-Antoine, nous sommes dans une situation où le corps est amené à l'hôtel de ville. Il est mis avec de la chaux pour empêcher et ralentir la décomposition. On a fait une autopsie qui était relativement bâclée et dont on ne peut pas tirer grand-chose. Et ensuite, il faut l'enterrer parce que deux ou trois semaines après, il commençait à être un peu mûr. Et donc, on décide de l'enterrer. Alors, la question, c'est comment l'enterrer? Comment on va le faire? Est-ce que c'est l'enterrement d'un suicidé ou l'enterrement d'un chrétien catholique? Et donc, les capitouls, de leur propre initiative, en fait, jugent avant le jugement et décident de l'enterrer catholiquement.
D'accord.
Alors qu'il n'y avait aucune preuve de sa catholicité ni de son désir de le devenir. Et c'est là où il y a quand même le nœud de l'affaire.
Et on ne savait rien aussi de la cause de la mort, parce qu'en plus, il y a eu de faux témoignages à un moment donné. On a parlé de cris et certains avocats disent « pas possible d'entendre des cris quand tout est fermé, il y a de lourdes portes, des murs épais ». C'est ça aussi.
La question des preuves est toujours très difficile. Et un des avocats qui s'appelait Sudre, qui était, je dirais, celui, un des avocats de la famille, qui écrit pour la famille, sans jamais les avoir rencontrés, propose au Capitoule, puis au Parlement, de faire l'expérience, d'aller dans la maison Calas, de fermer les portes et les fenêtres et de crier à l'intérieur et voir ce que les voisins pouvaient entendre. Parce qu'on a des voisins qui racontent des dialogues très développés, alors qu'il est possible. Alors, les Capitouls et les parlementaires, les magistrats du Parlement, ont refusé. Ils n'ont jamais accepté de faire ce type d'expérience. Et donc, nous ne savons pas ce que réellement les gens ont pu entendre dans les situations que vous avez décrites.
Vous me permettrez de dire que quand même, les Capitouls étaient des juristes à la petite semaine, non?
Tous n'étaient pas juristes, déjà.
Déjà.
Et je dirais que ça, on revient sur la question de la justice criminelle. La défense n'est pas très privilégiée. Et donc,
À cette époque-là, pas du tout. En tout cas, Jacques Thomas, je vous remercie. On n'a pas fini de parler de l'affaire Calas, donc rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.
Merci, à la semaine prochaine.